France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Clara Isée, Marie Richeux.
C'est un exercice totalement impudique et pétri de pudeur, celui de décrire sa bibliothèque, de raconter les livres qui s'y trouvent, ceux qu'on n'y trouve plus, mais auxquels on pense quand même. Ce mélange de dévoilement et d'opacité que permet souvent la radio est multiplié par l'idée de faire le portrait en creux de quelqu'un en parcourant ses rayonnages littéraires. Vous avez souvent déjà fait ça dans un couloir, une fête. Il est tard et vous vous attardez sur les livres que vous voyez dans les étagères. Vous avez peut-être même fait une autre expérience plus étrange, celle de vous attarder vraiment une heure entière dans vos propres piles de livres. Qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce que cela raconte ? Il y a le feu et l'eau dans les textes que vous avez choisis pour nous parler de vos expériences de lecture, Clara Isée, autant d'éléments qui sont présents dans ce que vous écrivez, que ce soit côté littérature ou en chanson. Il y a des poèmes irradiant d'un amour qui dépasse le seul amour des corps et des êtres pour élargir les dimensions de nos mondes. Je pense à René Char ou Armatova. Mais il se peut qu'on rencontre au détour de vos choix d'ouvrages le diable en personne, la fureur, le mystère, un naufrage, des voix, beaucoup de voix, bref. Une certaine intensité, on est ensemble pour une heure. Merci beaucoup, Clara Isée, d'installer votre bibliothèque dans notre studio. Bonjour.
Merci à vous, bonjour.
Bienvenue. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette table et ce bazar?
Ce bazar, c'est je me sens chez moi.
C'est vrai.
Ouais, à peu près.
Ouais, on a mis les livres que vous avez choisis comme étant des livres étapes qui vont ponctuer la visite de votre bibliothèque. Mmh. Ça veut dire que partout où il y a les livres que vous aimez, vous êtes un peu chez vous?
Ouais, un petit peu. Et puis partout il y a un peu de bordel aussi.
bazar et littérature.
Ouais, c'est pas obligé. C'est ça, je me reconnais.
Ils sont où les livres chez vous?
Ils sont un peu partout. J'ai un petit couloir pour arriver au salon dans lequel il y a les romans. Dans le salon, il y a plutôt la philo et les textes, les essais, etc. Et dans ma chambre, il y a toute la poésie.
Et quand ils sont... Alors, ils sont classés donc par genre? Est-ce qu'ils ont un autre classement?
Non, après, à l'intérieur, c'est... Non, pas du tout. Non, ils sont en joyeux bordel dans chacun leur catégorie.
Et comment vous vous y retrouvez?
Je pense que c'est une mémoire visuelle, une mémoire de cœur aussi. Je sais que les livres qui m'ont touchée et que j'ai laissés à un endroit, je sais que ma main les retrouvera.
Pourquoi la poésie est dans votre chambre?
Parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus proche de moi. Enfin, je viens vraiment de la poésie et dans ma façon d'écrire. Et je pense que la poésie, pour moi, depuis que je suis enfant, c'est ce que j'ai lié de plus fort à la musique. Enfin, pour moi, la poésie, ça a toujours été plus du côté de la musique que du côté de la littérature, presque. Et du coup, elle est dans ma chambre parce que je pense que la poésie, c'est peut-être ce qui m'aide le plus à vivre.
Est-ce que vous avez souvenir de bibliothèques que vous auriez rencontrées? Alors je faisais comme ça mention de cette expérience que j'aime bien faire moi, c'est-à-dire vraiment arriver dans une fête bien accomplie, bien lancée, et avoir une espèce de petit moment de creux où je vais dans la nuit regarder un peu les rayonnages littéraires. Alors en dehors de cette expérience que vous avez peut-être faite, mais des bibliothèques qui vous auraient laissé comme ça des traces, Clara Isée?
Ouais, je pense qu'il y a la bibliothèque de mon grand-père. On avait une maison dans le sud quand j'étais petite, qui était sa maison à lui. Et il y avait comme ça plein, il lisait énormément, et il y avait plein de livres sur les étagères. Et quand j'étais petite, ça me fascinait. Je sais que je passais des heures à regarder aussi les noms, que j'étais assez fascinée par la sonorité des noms et que du coup c'était plus ça qui m'appelait et qui faisait que, et j'avais un peu l'impression du coup aussi, mon grand-père je le était quelqu'un d'assez opaque, et du coup je pense que j'avais l'impression de le comprendre un peu mieux en voyant ses livres.
Oui, vous y croyez, vous, à l'hypothèse qu'on fait ici, que on se raconterait dans ces rayonnages littéraires?
Je pense un peu, en tout cas. Ouais, dans le sens où en tout cas, si on est quelqu'un qui est touché par les livres. Mais oui, je pense que la façon dont même inconsciemment, même si on range pas sa bibliothèque, je pense que la façon dont les livres trouvent leur espace à l'intérieur de soi résonne à l'extérieur, ça c'est sûr.
Est-ce qu'elle est stable, votre bibliothèque, ou est-ce que vous continuez à faire entrer et sortir beaucoup de livres?
Ouais, je continue à faire entrer et sortir beaucoup de livres. J'ai du mal à les faire sortir, c'est un peu mon problème. Il faut que j'arrive à les faire sortir parce que elle croule un peu, mais oui, elle bouge.
Elle est plutôt mouvante.
Ouais, elle est plutôt mouvante. Et je sais que j'organise souvent des soirées musique chez moi depuis longtemps. Du coup, mon appart, mon salon, c'est vraiment un tout petit salon, mais on s'entasse un peu dedans et on fait de la musique. Et je sais que ça m'arrive de temps en temps de voir que des livres ont disparu ou même de voir que des livres apparaissent. Et en fait, c'est un truc que j'adore. J'ai pas du tout ce rapport à...
C'est génial.
Je trouve que les livres, ils sont faits pour aller de main en main. Et finalement, il y a rien qui me fait plus plaisir que de voir qu'il y en a un qui manque sur la bibliothèque en sachant que c'est forcément un ami qui l'a récupéré. Je trouve ça assez joli.
Vous avez quoi comme histoire avec les livres? Si on remonte, est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire, Clara Isée?
J'ai toujours eu un rapport assez fort à la lecture. Moi, je pense, quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, mais j'étais très timide. Et du coup, je pense que la lecture, ça a été à la fois un refuge, à la fois un espace où j'avais l'impression de trouver des alliés à qui j'arrivais à parler peut-être plus que aux gens réels. Et voilà, après, je pense qu'il y a aussi toute une période dans l'enfance et dans l'adolescence où, que je trouve assez belle, que dont j'ai une mémoire comme ça un peu, enfin, très jolie, où je pense que c'est des âges où tout se mélange, où du coup, moi je suis la génération d'Harry Potter, du coup c'était, enfin, je sais qu'il y a eu des années comme ça où se mélangeaient des trucs de ce type-là et en même temps mélangés au premier livre de littérature, entre guillemets, que j'ai lu, comme Léo Durlevent de Brontë, etc., ou plein de livres comme ça. Et c'est vrai que c'est une époque que je trouve assez belle parce que je pense que dans des yeux d'enfant, il n'y a pas encore cette distinction de ce qui est un bon livre et ce qui ne l'est pas. Et du coup, tout se croise et je trouve ça assez beau.
Je pensais, quand vous disiez tout se mélange, Clara Isée, qu'il y avait quelque chose des livres qui se mélangeaient beaucoup avec la vie, c'est-à-dire une lecture avide et curieuse d'Harry Potter qui se retrouve
aussi,
dans la cour du collège, de l'école, dans l'imaginaire, dans les rêves.
Aussi, complètement. Mais c'est vrai que j'aime bien cette, j'ai un souvenir assez beau, mais même dans la musique et tout, de ces moments où en fait, qui sont en fait des moments assez baroques finalement, où plein de genres différents viennent se mélanger et où on a, je pense, dans l'enfance, on a ce rapport qui est un rapport assez pur avec ce qu'on lit. Et où du coup les choses se mélangent de manière assez belle, je trouve.
Ça vous a quitté ?
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je fais beaucoup de musique, c'est vrai que quand je lis peut-être des choses plus ciblées ou des choses dont on m'a parlé ou des choses qui, de manière plus évidente, vont me plaire. Et c'est vrai que parfois je me dis que je devrais aussi me laisser un peu plus surprendre par des choses que j'aurais peut-être pas forcément l'impulse de lire comme ça.
Est-ce que vous avez parfois changé d'identité de lectrice ? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu des virages, quoi, des changements de territoire, des manières d'aborder autrement la lecture ?
Ouais, je pense que déjà moi, j'ai étudié la philo et où du coup, je pense qu'il y a une période dans ma vie où j'ai lu vraiment énormément de philo et que je me suis jamais éloignée de la poésie. La poésie, ça a vraiment été comme la lame de fond, quoi, qui est toujours là.
Mais aujourd'hui encore.
Encore aujourd'hui, ouais, j'en ai besoin, quoi, pour vivre. Enfin, ça m'aide. Mais par contre, je pense que la période où j'ai lu beaucoup de philo, j'ai beaucoup moins lu de romans, par exemple. Et je pense que ça correspond aussi à des moments de vie où on va chercher ce dont on a besoin. Mais voilà, c'est plus des virages comme ça. Après, je pense que la lectrice en moi, j'ai l'impression qu'elle est connectée à une petite fille qui a pas beaucoup bougé.
Ouais, c'est marrant. Ouais. Comment ce serait, alors, comment est-ce que vous décririez le retour au roman? À quel moment et pour y trouver quoi ou pour y chercher quoi?
Je pense que notamment quand j'ai fini mon master de philo et que du coup je me suis mis à beaucoup moins lire de philo et où en fait le roman est revenu et je pense qu'en fait ça m'avait manqué parce qu'au final, enfin, j'adore la philo et il y a vraiment des auteurs qui continuent de m'accompagner et qui m'aident énormément aussi, mais c'est vrai que dans le roman, je pense que il y a aussi une dans les grands romans, en tout cas dans ceux qui m'émeuvent, je trouve qu'il y a une fluidité des genres en fait où dans le roman en fait on retrouve la poésie, on retrouve aussi la philo et je pense qu'il y a une façon de plonger dans l'imaginaire mais dans un imaginaire qui agit sur le réel et qui du coup peut m'émouvoir encore beaucoup plus que
oui et ça reste un endroit de pensée ça, ça reste tout à fait un endroit de pensée
oui complètement dans les grands textes je pense que ça reste absolument des endroits de pensée.
Est-ce qu'écrire a bougé la lectrice que vous êtes, Clara Isée? Tout confondu, c'est-à-dire à la fois des chansons, un roman?
Ouais, bien sûr, mais d'abord je pense que quand j'écris des chansons ou même quand j'ai écrit mon roman, je pense qu'on essaye en tout cas d'aller diguer dans des endroits qui sont des espaces qu'on un peu profond ou un peu secret en soi,
ouais.
Absolument. Et je pense que ces espaces-là, ils sont composés par tout ce qu'on a vécu d'important dans nos vies ou d'intense, et que la lecture a été quelque chose de très intense dans ma vie, et que du coup, forcément, je pense que je n'écrirais pas les chansons que j'écris aujourd'hui, ou je n'aurais pas écrit Mise à feu de la même façon si j'avais pas lu avant et si je continuais pas à lire, ça c'est sûr.
Sans nécessairement, vous utilisez ce joli mot de diguer, mais sans nécessairement avoir conscience justement de ce que vous bougez comme marécage, quoi. Il peut très bien y avoir tous les textes qu'on va évoquer aujourd'hui, mais sans chercher de la référence,
sans chercher à
vous relier à quelque chose de conscient.
Mais je pense que, en tout cas moi, dans ma façon de faire, je crois que quand je compose ou quand j'écris, même si c'est deux choses différentes, mais je cherche presque une semi-inconscience. Enfin, je pense que les choses, elles arrivent, les choses importantes en tout cas, ou les choses profondes, elles arrivent en semi-inconscience. Et je pense que c'est aussi parce que quand on va chercher quelque chose comme une chanson ou comme un roman, c'est qu'on va chercher quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer autrement. Et que donc, du coup, je pense qu'on a affaire dans ces cas-là à de l'infralangage. Enfin, je pense qu'on essaye d'aller avant les mots, et peut-être même qu'on essaye de trouver les mots qui n'existent pas ou ceux qui cherchent à naître en soi. Et donc, j'ai l'impression que pour trouver cette langue-là intérieure, qui est une langue un peu magique, il faut une part d'inconscience, une grande part d'inconscience.
Alors, les personnes qui acceptent de dévoiler leur bibliothèque, on leur demande des espèces de plots, des phares dans la nuit, comme ça, qu'on appelle des livres étapes. Déjà, c'est un exercice qu'on n'imagine pas hyper évident. Et en plus, vous, on vous a demandé de le faire super rapidement. Alors, qu'est-ce que ça a été? Juste, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? On va là aller de livre en livre, maintenant, dans le temps qui nous reste. Comment est-ce que ça s'est, composé pour vous?
C'est très difficile de choisir de mettre des pierres comme ça, juste quelques-unes sur des ouvrages qui nous ont marqués. Donc c'est vrai que moi, je me suis dit, j'ai essayé un peu instinctivement, sans trop réfléchir, à penser aux premiers ouvrages, qui sont pas forcément les ouvrages d'ailleurs forcément les plus... je suis revenue à un endroit très intime de quel texte m'a
du
vraiment...
Du goût, de l'émotion.
Ouais, quel texte m'a vraiment bouleversée, ou quel texte m'a bougé intérieurement, ou m'a fait prendre une direction, je pense, moi, dans mon langage, même à un niveau inconscient, où ça a bougé quelque chose en moi, quoi. Et du coup, non, c'est assez joli. Je pense que, un peu pareil que l'écriture, je me suis dit qu'il fallait rester à demi-consciente, sinon on choisissait
pas
jamais
la bibliothèque. Vous avez beaucoup parlé de langage, de traduction, on va commencer par écouter justement la voix d'un traducteur, c'est Jacques Darras. Il a traduit un des livres Étapes, et il a traduit Sous le volcan de Malcolm Lowry, il en parle.
Je crois que la réflexion de Lowry, car c'est un philosophe d'une certaine façon, c'est précisément sur celle de la répétition. La réalité, c'est ce qui se répète, c'est ce qui revient. Et c'est une critique, en quelque sorte, de la réalité qui est véritablement de la philosophie en action, ou de la philosophie en perception. Nous voyons le monde revenir. Et dit-il, et là il élargit au cosmique, et c'est cet aspect-là aussi, moi, qui me fascine véritablement, c'est qu'il dit, dans le fond, mais oui, nous sommes dans un monde en révolution. Il n'y a pas de révolution politique. Beaucoup de distance vis-à-vis justement du monde politique dans lequel l'Europe se trouve engagée à l'époque avec les différentes idéologies. Il y a du retour. Nous sommes dans un univers où toutes les planètes tournent sur elles-mêmes et tournent autour d'un centre. Et ce centre est absolument à l'infini. Et un ivrogne qui est quelqu'un qui titube, mais qui titube en rond, qui titube circulairement sur lui-même, est véritablement le philosophe spontané.
Alors, il évoque Sous le volcan, au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry, Jacques Darras. Ça fait partie des choix de livres que vous nous proposez, Clara Aizé. C'est un livre qui est publié dans un premier temps en 1947, mais qui est traduit en français en 1973 chez Gallimard. Pourquoi vous avez choisi ce texte?
C'est un texte qui a été très marquant pour moi. Alors, expliquer vraiment pourquoi, je vais essayer, mais c'est un texte d'abord que j'ai essayé de lire peut-être 10 fois avant d'y arriver, dans le sens où j'accrochais pas, j'arrivais pas, j'entrais pas dedans. Et je crois que souvent les grands textes qui m'ont marqué, ça a souvent été des textes où au début je me dis, j'arrive pas, je comprends pas cette langue, il y a quelque chose qui résiste, et en même temps, j'y reviens. J'y reviens comme un truc un peu obsessionnel, où c'est comme une langue qui me rappelle, et en même temps ça, et en fait je sens que ça vient lutter à l'intérieur. Et je pense que la langue de Laurie, en fait, elle m'a, une fois que je suis vraiment rentrée dedans, elle m'a complètement bouleversée à plein d'endroits. D'abord parce que je pense que c'est une langue qui alors pour le coup, c'est un texte qui est complètement ça pourrait, c'est un roman, mais c'est en même temps un très long poème. C'est en même temps, je pense, une réflexion philosophique hyper profonde sur ce que c'est que la création, sur ce que c'est que l'existence, enfin en tout cas chez Laurie. Et ça me bouleverse parce que je pense que pour entrer dans cette langue-là, il y a un moment donné besoin de lâcher le raisonnement conscient. Et comme on entre en fait dans la langue du consul, qui est un homme alcoolique et ivre, en fait, il y a vraiment un mouvement de lâcher prise et de comprendre qu'il y a des choses justement qu'on va saisir, mais que notre corps va saisir et que notre pensée va pas comprendre, et que quelque part la langue vient pirater le langage conscient du lecteur. Et je trouve ça très puissant. Et
presque comme une hypnose, parce que Jacques Darras disait finalement, ce qui est intéressant dans Tous les volcans, c'est l'idée que ça se répète, que le réel fait répétition, qu'il y a un éternel retour et que on est tous un peu bourrés en fait, et que finalement rapport philosophique à l'existence, ce serait cette sorte d'ivresse.
Ouais, complètement. Il y a ça, et puis il y a aussi quelque chose que je trouve très très fort, qui pour moi d'une certaine manière me rappelle Dostoïevski, même si ça a absolument rien à voir dans l'écriture évidemment, mais c'est que c'est vraiment le récit d'une lente descente aux enfers, ce texte. Et c'est aussi un récit qui met en scène un destin, en fait. Et où, en fait, on a toujours la prescience que quelque chose va arriver sans savoir exactement ce qui va arriver. Et en fait, ce que je trouve très fort, c'est que, à la fois, c'est un texte qu'on pourrait lire comme un texte extrêmement nihiliste, parce que, quelque part, les personnages sont incapables, malgré les avertissements, de sortir de la logique de destruction et de sortir de la descente aux enfers. Et en même temps, ce que je trouve très fort, c'est qu'en fait, il y a, pour moi, là où il y a une lumière incroyable et malgré tout une foi, c'est dans l'acte même d'écrire et dans le fait qu'il écrive un texte qui soit si puissant. Il y a comme une espèce de contradiction que je trouve magnifique entre ce qui est dit et le mouvement de l'écriture qui raconte un mouvement inverse,
la vie, quoi,
celui de la foi, en fait, au fond.
Est-ce qu'on en lit un extrait ?
Ouais, bien sûr.
Est-ce que vous en lisez un extrait ?
Parfois, sous le tonnerre, il y a quelqu'un d'autre qui pense pour vous, met à couvert les meubles de votre porche mentale, ferme et verrouille la fenêtre de l'esprit contre ce qui semble épouvantable, moins comme une menace que comme une sorte de viol de l'intime des cieux. Un fracas démentiel là-haut, une manière de scandale que n'ont pas le droit d'observer de trop près les mortels. Mais dans l'esprit, toujours, il reste une porte ouverte. Comme l'on sait que des hommes, partant de grands orages, laissent ouverte leur vraie porte pour que Jésus y entre. Pour l'entrée et la réception de l'imprévisible, l'acceptation peureuse de la foudre jamais tombée sur soi, pour l'éclair s'attaquant toujours à la rue d'à côté, pour le désastre frappant si rarement à l'heure vraisemblablement désastreuse. Et ce fut par cette porte mentale qu'Yvonne, toujours en équilibre sur le tronc, perçut alors la menace. Quelque chose n'allait pas. Sous le tonnerre, alenti, quelque chose approchait dans un bruit, pas celui de la pluie. C'était un animal de quelque espèce, terrifié par l'orage, et quel qu'il pût être, cerf, cheval, sans nul doute, bête à sabots, c'est galopant à mort qu'il approchait, se ruant, fonçant à travers les sous-bois. Et maintenant que l'éclair fulgurait à nouveau et que le tonnerre s'apaisait, elle entendit un hennissement prolongé, en hurlement de panique presque humaine. Yvonne s'aperçut que ses genoux tremblaient. Appelant Hugh au secours, elle essaya de se retourner pour redescendre l'échelle, mais se sentit perdre pied sur le tronc. Elle glissa, tenta de reprendre l'équilibre, glissa encore et chut en avant. Son pied se tordit sous elle dans sa chute en une douleur aiguë. L'instant d'après, tâchant de se relever, elle vit, à l'éclatante lueur d'un éclair, le cheval sans cavalier. Il fonçait sur le côté, pas sur elle, et elle le vit bien en détail, la selle clinquante qui glissait sur son dos, même le nombre 7 marqué au fer sur sa croupe. Elle tenta encore de se relever et s'entendit hurler comme la bête virait vers elle, contre elle. Le ciel était une blanche nappe de flammes sur laquelle furent un instant cloués les arbres et le cheval cabré en équilibre.
Bon, c'est vrai que c'est un jeu auquel on va pouvoir jouer pendant tout le déballage du bibliothèque Clara, mais tous ces motifs qui sont dans l'imaginaire que vous déployez depuis des années, dans la musique, dans la littérature, là il y a le cheval, il y a la foudre aussi.
Ouais, bien sûr.
Il y a l'idée de se laisser atteindre, se laisser presque ouvrir en fait par les choses.
Totalement.
Dans l'extrait que vous avez choisi.
Totalement, il y a ça et il y a cette chose qui me touche vraiment chez Laurie comme cette espèce de description d'un destin auquel on n'échappe pas et de la prescience de la catastrophe. Et en même temps que cette catastrophe-là, enfin en l'occurrence perçue par Yvonne, elle est à la fois terrible et à la fois elle est décrite comme comme un événement qui libère en fait. Et donc c'est on assiste à sa mort, on assiste à un accident, et en fait il y a plusieurs plans du réel qui viennent s'enchevêtrer, et du coup le lecteur, je pense, à la fois a une vision un peu horrifique de la mort de d'Yvonne, ouais, et de la scène, et en même temps a accès par l'écriture à aussi la description d'un destin qui est en même temps poétiquement est d'une splendeur totale et qui raconte autre chose que le désespoir, qui raconte aussi notamment une délivrance, mais aussi comme si la beauté de ce qui était décrit et la beauté du geste, la beauté du cheval, la beauté des éléments, le fait que d'un coup, Yvonne, qui n'arrête pas d'être perdue pendant tout le roman, fait un avec des éléments que sont les animaux, la nature, l'orage.
Ça devient son image.
Ça devient son image et ça devient quelque chose de très beau et de très puissant et de très fort et de finalement qui a peu de choses à voir avec la mort, en fait.
Bon, on commence tout doux. C'est très bien, on va poursuivre tout doux, parce que c'est un autre grand monument de la littérature, Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov, que vous avez choisi.
Oui.
Alors ici, il est dans la très belle édition Un culte, et dans la traduction de Françoise Morvan et André Markovitch. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot avant d'en lire un extrait, Clara Aizé?
Oui. Pareil, c'est un texte qui m'a alors exactement pareil que Sous le volcan.
Est-ce que vous le découvrez à peu près à la même époque, tous ces textes-là?
Non, Sous le volcan, ça fait quelques années, enfin ça fait, je sais pas, peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et Bouliakov, en fait, Le Maître et Marguerite, je l'ai lu il y a même pas 2 ans.
C'est plus récent.
C'est plus récent, ouais. Et c'est drôle parce que pareil, un peu de la même façon, c'est un texte où j'ai mis du temps à rentrer dedans. Pareil, j'y suis allée, j'ai arrêté, j'ai recommencé, et puis finalement, je suis rentrée dedans et ça a été une déflagration pour moi, ce texte. Je pense que c'est un des textes qui m'a le plus bouleversé dans ma vie. Pour plein de raisons. D'abord parce que, pareil, alors c'est un texte complètement baroque, dans le sens où il est implaçable dans aucune case que j'ai pu lire avant, connaître. Enfin, je trouve que c'est un ovni total, ce texte. Et là où il m'émeut, c'est que je pense que c'est peut-être le texte le plus fort là-dessus, que j'ai lu en tout cas, entre un hyper-réalisme très documenté, très presque un travail sociologique très très poussé sur la société moscovite des années 1930, et avec du coup des personnages et des situations et le fait de d'expliquer les rouages d'un système que Bouliakov dénonce, mais avec une extrême précision, quoi. Et en même temps, il y a des passages dont celui dont que je vais lire, mais il y a des passages complètement dingues, d'un onérisme total et d'une poésie folle et complètement surnaturelle, où du coup Marguerite parle au diable, va à une fête avec le diable qui est une fête complètement démente, et il y a la fin que j'ai pas choisie, mais qui est une fin à tomber par terre où elle part avec Satan, en fait, dans les cieux. Et du coup, pour moi, c'est un livre fou, parce que je trouve que très souvent, on oppose le réalisme au travail de l'imaginaire.
Oui, il n'y aurait pas de place pour les deux.
Il n'y aurait comme pas de place pour les deux. C'est une des raisons pour laquelle j'adore d'ailleurs tous les livres sud-américains de réalisme magique, etc., parce que je trouve qu'il y a cette collusion-là. Mais dans le texte de Bouliakov, il y a vraiment un truc que je trouve un peu unique, qui est vraiment cette existence poussée à l'extrême des deux, quoi.
On lit un extrait?
Ouais. Donc c'est Marguerite, du coup, qui a fait un pacte avec le diable et qui, du coup, pour récupérer son amour, le maître, du coup, accepte de partir avec le diable dans cette fête qu'il donne, et du coup, elle se transforme en sorcière. Donc, l'application de cette crème ne l'avait pas changée qu'extérieurement. À présent, partout en elle, dans la moindre cellule de son corps, elle sentait bouillonner une joie qu'elle ressentait à la façon de petites bulles qui lui auraient piqueté tout le corps. Marguerite se sentit libre, libre de tout. De plus, elle avait compris, avec toute la clarté possible, que ce qui était arrivé, c'était ce que son pressentiment du matin lui avait annoncé. Et elle était en train d'abandonner à jamais l'hôtel particulier et toute sa vie d'avant. Mais de cette vie d'avant, elle sentit tout de même une pensée se détacher d'elle, à savoir qu'il fallait qu'elle remplisse un dernier devoir avant que s'accomplisse cette espèce de chose nouvelle, extraordinaire, qui l'attirait vers le haut, vers l'air pur. et telle qu'elle était entièrement nue, sans cesser de voleter dans les airs, elle courut dans le bureau de son mari, alluma et se précipita vers son secrétaire. Sur une feuille arrachée à un bloc-notes, elle écrivit au crayon, sans rature, en grosses lettres précipitées « Pardonne-moi et oublie-moi aussi vite que tu peux. Je te quitte à jamais. Ne me cherche pas, c'est inutile. Je suis devenue une sorcière sous le coup des chagrins et des malheurs qui m'ont frappée. L'heure est venue pour moi de partir. Adieu, Marguerite. »
Club dans la bibliothèque de Clara Isée. Marie Richeux.
Aujourd'hui encore, sur les terres de Caroual, tous racontent ce voyage. Chacun à sa manière. Tous, sans l'avoir vu, peu importe, ils ne cesseront jamais de le raconter, pour que personne ne puisse oublier combien ce serait beau si pour chaque mère qui nous attend, il y avait un fleuve pour nous, et quelqu'un, un père, un amour, quelqu'un, capable de nous prendre par la main et de trouver ce fleuve, l'imaginer, l'inventer, et nous poser dans son courant avec la légèreté de ce seul mot, adieu. Ce serait merveilleux, vraiment. Elle serait douce, la vie, n'importe quelle vie. Et les choses ne feraient pas mal, mais s'approcheraient, portées par le courant. On pourrait d'abord les frôler, puis les toucher, et seulement à la fin se laisser toucher par elles, se laisser blesser même. En mourir, peu importe, mais tout serait finalement humain. Il suffirait de l'imagination de quelqu'un, un père, un amour, quelqu'un. Lui, il saurait en inventer une de route, ici, au milieu de ce silence, sur cette terre qui ne veut pas parler. Route clémente et belle, une route d'ici jusqu'à la mer.
C'est un extrait de Oceano Mare, dans son titre italien paru en 1993, et Océan Mer paru en 1998, chez Albin Michel. C'est un roman d'Alessandro Barrico, qui fait partie des livres étapes que vous avez choisi, Clara Isée, pour visiter votre bibliothèque. J'ai devant moi votre dernier disque qui s'appelle Oceano Nox, et non Oceano Vox, comme tout le monde le rebaptise. Il y a évidemment éventuellement quelque chose qui peut se parler. Qu'est-ce qui vous touche dans ce roman? Moi, je l'ai lu, ça m'a laissé. J'ai quasiment aucun souvenir, comme d'habitude, mais alors, il est pareil, quoi. Il est vraiment dans mon cœur, ce texte.
Ouais. Moi aussi, je l'adore. En fait, pour le coup, ça, c'est vraiment une lecture adolescente.
Plus adolescente, ouais, moi, je suis d'accord.
Plus adolescente. Ouais. Et je me souviens que quand j'ai lu ce texte, c'était... J'ai pas un sentiment de gratitude incroyable, quoi. Justement pour toute la poésie, pour toute la douceur qu'il y a dans ce livre, pour les personnages, c'est que des personnages improbables, absurdes, mais tellement beaux, tellement.
Qu'il y a un naufrage.
Il y a plein de voix différentes qui s'entremêlent, et au milieu, t'as la voix de deux personnages qui font partie du radeau de la Méduse, en fait. Et finalement, tous ces personnages-là, qui viennent tous de moments très différents dans l'histoire, se retrouvent, c'est un espèce de conte, se retrouvent dans cette pension qui s'appelle la pension Alma Ayer, devant la mer. Et c'est comment chacun est venu là de manière plus ou moins consciente pour venir se soigner. Et y a vraiment des passages que je trouve magnifiques. Il y a un peintre qui en fait passe sa vie devant la mer à essayer de peindre la mer, et en fait à chaque fois là, il peint avec l'eau de la mer et la toile reste blanche, et un jour il a un déclic et il se rend compte que pour commencer à peindre un portrait il a besoin de trouver les yeux, et en fait il trouve que les bateaux c'est les yeux de la mer, et donc il commence à peindre. Il y a Elise Wynne, du coup, qui est la le personnage dont
qui parlait à l'instant,
qui est un personnage qui moi, en tout cas à l'époque adolescente, m'a complètement bouleversée. Où c'est une jeune fille dont Barrico dit que, enfin le narrateur en tout cas dit que elle est trop fragile pour vivre et elle est trop forte pour mourir. Et du coup, c'est un personnage aussi d'une enfant comme ça qui est incapable de, enfin que tout agresse en fait, qui doit et qui essaye d'être protégée par un père qui en même temps se trouve démuni face à la sensibilité de sa fille, et du coup qui l'envoie
dans cette pension.
Mmh. Et donc c'est comment en fait elle va renaître à sa propre vie à travers le contact de la mère, à travers le contact de l'amour, à travers et c'est plein de... Ouais, il y a vraiment des passages que je trouve magnifiques dans ce texte, et notamment parce qu'ils sont pleins toujours d'une immense douceur et d'une grande mélancolie, mais une mélancolie dans ce qu'elle a
de pas destructeur
et de même pas qui n'éteint rien de la vie en fait. C'est une mélancolie chez Barrico, en tout cas dans ce texte, qui est une mélancolie qui accompagne en fait, qui accompagne et qui accepte qu'il y ait des choses blessées en nous et qui en même temps continue d'aller vers la vie, quoi.
Il me semble que Océan Mer, ça fait partie des livres que vous aviez envie d'évoquer mais que vous n'avez plus chez vous. Clara Isaac,
oui.
Ou alors pas retrouver, je sais pas. En tout cas, non. C'est le seul dont vous avez pas fait de photographie
ouais,
de l'extrait.
En fait, c'est drôle parce que comme c'est un texte, c'est un texte du coup que j'avais adoré ado, et j'avais découpé les pages que j'adorais pour les coller dans ma chambre.
Évidemment.
Donc, du coup, j'ai un texte qui reste ce texte-là, mais avec des pages arrachées au passage que j'aime. Voilà. Du coup, j'ai.
Donc, on s'est appuyé sur celui de la grande bibliothèque de Radio France. Vous parlez de la multiplicité de voix avec laquelle travaille Alessandro Barrico dans ce texte-là, et vous avez aussi choisi un poème d'un livre alors tout à fait contemporain, c'est un livre d'Antoine Wauters,
ouais,
où il y a aussi des voix comme ça, et d'ailleurs le passage que vous avez choisi, donc le livre s'appelle Le musée des contradictions, évoque des figures notamment de jeunes filles aux 100 voix. Je vous propose qu'on en fasse lecture.
Ouais, bien sûr. Un corps libre est impersonnel. Toute petite, on crevait à l'idée d'être mise dans des cases. On voulait être nombreuse, incendiaire, violente, incertaine, improbable, mordre les mecs et les filles, avoir des cheveux de paille et de pagaille, et rôter en sentant que nous étions puissantes et importantes, mais pas plus et pas moins que les eaux de l'étang et celles du torrent. Et pour cela, il nous fallait changer de forme, et non seulement de forme, mais d'armes et de chants et de cris. Nous avions 100 voix, nous en avions 100 000, et qu'en reste-t-il ? Nous ne serons plus binaires, ni filles ni garçons, mais les deux, filles et garçons, et en même temps aucun des deux. Nous serons autre chose, autrement. Les oppositions, les logiques binaires ont tout détruit jusqu'au sel de la terre. Or, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? N'essayez plus de nous atteindre, ne nous parlez plus, ne nous appelez plus. Elle est là, la vie, se contredire, constamment se transformer. Le pire, ce serait de nous mettre à signer des livres écrits avec les mêmes mots que les vôtres, les mêmes que ceux qui bouchaient les corniches de nos pères et nous filaient de l'asthme. Mais cela n'arrivera plus. Ah ! Nous reprenons le maquis, monsieur le journaliste. Vive les angines de poitrine, vive l'asthme, vive Ingeborg Bachmann et vive la poésie.
C'est un extrait du Musée des contradictions, donc apparu chez Verdier, qui est signé Antoine Wauters. Pourquoi vous vouliez lire ce texte-là ?
Enfin, je pense que j'aurais pu en choisir plein de Wauters, mais c'est vrai que c'est une langue qui m'émeut énormément aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une langue pareille qui est très hybride en fait, qui est dans tous ses textes, que ce soit Pense aux pierres sous tes pas, dans Mahmoud ou La montée des eaux, qui est magnifique. Il y a toujours une espèce de porosité entre la poésie, entre la narration, entre... Je trouve qu'on sait jamais exactement dans quel territoire on est, et je trouve que c'est quelque chose qui est d'une grande force. Et aussi, je pense que dans cet extrait-là que j'ai choisi, il y a quelque chose qui me touche, parce qu'il y a une révolte qu'on trouve souvent dans ces textes, et je trouve que c'est une révolte que je trouve très belle, parce qu'en l'occurrence, c'est là, il parle aux journalistes, mais dans les autres textes qui sont à chaque fois des discours,
des adresses.
Il y a des adresses à Monsieur le Ministre, à Monsieur le Président, et en fait, à chaque fois, c'est des, enfin moi, en tout cas, tel que je le lis, j'y vois une révolte face à face à la loi d'une certaine manière, face
à l'autorité
et face à la loi, mais dans le sens face à la langue de la loi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une révolte face à un langage qui ne vit plus, ou un langage qui est devenu stérile d'une certaine manière, et où je pense que toute la poésie d'Antoine Vauters vient agir contre ce langage qui serait devenu
figé,
un langage figé, immobile, mort. Et voilà, il y a un autre moment dans le texte où il dit, où il parle des astéroïdes qu'il y a dans la langue, du fait d'aller, je sais plus exactement comment il dit, mais lécher les pierres, enfin que c'est un langage qui vient lécher les pierres, et je trouve que c'est très beau parce que c'est une langue qui essaye de défiger les choses, c'est une langue qui essaye de nous sauver d'un rapport binaire au monde, et le titre est magnifique, enfin le musée des contradictions, je trouve que c'est un titre vraiment magnifique et qui raconte aussi ça, que en fait dans la poésie, dans l'écriture, dans la littérature, il y a peut-être qu'elle peut nous sauver à cet endroit-là, qui est, je pense que pour moi, les grands textes, c'est des textes qui en fait, d'une certaine manière, ont une foi incroyable, dans le sens où ils essayent de sauver le langage, et à travers la réinvention d'un langage qui comme si ça pouvait nous sauver de ce qui est mort par ailleurs.
Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, Clara Isée, vous l'avez trouvée, cette langue vivante, justement, cette langue qui serait pas celle des autres, pas une langue morte, ou complètement mélangée de celle des autres?
Je pense que c'est pas à trouver, dans le sens où ce n'est pas, je pense
une que fois c'est pour toutes. Ouais.
Ouais, et puis surtout, je pense que c'est pas une langue qui nous appartient, dans le sens où j'ai l'impression que la poésie, et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce texte, par exemple, c'est encore une fois, elle a affaire à l'infralangage, dans le sens où je pense que c'est essayer de réinjecter dans la parole et dans les mots tout le mystère en fait qui est sous la parole, et tous les mots et essayer de faire naître tous les mots qui n'existent pas encore, et c'est quelque chose que la poésie partage avec la musique, et donc je pense que c'est en perpétuelle recherche, et surtout je pense que ça n'appartient pas aux auteurs qui je crois que quand d'un coup il y a une grande œuvre qui naît, je crois qu'elle a toujours affaire à cet infralangage là et qui est un langage qui dépasse l'auteur, et que c'est pour ça que l'œuvre devient vraiment intéressante.
Et d'ailleurs, il est question beaucoup de voix aussi dans les textes que vous avez choisis, Clara Isée, et que peut-être cet infralangage-là dont vous parlez beaucoup, l'espèce de continuum sans sens et sans nécessairement de compréhension intellectuelle, elle passe aussi beaucoup par la voix, qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit chantée. On va en écouter une que vous aimez, paraît-il.
Yeah.
Onum tutelar, c'est un air de la Vestale de Gaspard Espontini par Maria Callas. Ça va nous faire entrer dans votre chambre, Clara Isée, à l'endroit des poèmes.
Yes.
Cette voix-là, parce que bon, bah voilà, il y a beaucoup de, on parlait beaucoup de ce qu'on entend dans une voix et qu'on peut pas expliquer. Il y a beaucoup de choses dans la voix de Maria Callas qu'on entend et qu'on peut pas expliquer.
Oh, c'est clair.
Donc on va à pas comme ça de velours, parce que vous êtes venue avec trois poèmes, plus que trois recueils d'ailleurs. C'était assez précis ce que vous souhaitiez lire pour continuer d'évoquer votre bibliothèque. Donc il y a Akhmatova, il y a René Char et il y a Ingeborg Bachmann. Alors allons vers Akhmatova.
Yes.
Vous voulez nous dire, déjà quand on est dans cette fameuse chambre, il y a un endroit vraiment où c'est une pile de livres.
Il y a un endroit en face de mon lit où il y a beaucoup de poésie, et derrière, juste derrière mon lit aussi, il y a une alcôve où il y a de la poésie.
Et Akhmatova, elle est en face ou elle est juste derrière?
Elle est derrière.
Ah, bah oui, évidemment.
Elle est à portée de main contre la nuit.
Bon, c'est une femme qui connaît évidemment des mouvements de l'histoire très difficiles. Elle écrit, elle est interdite de publier. Il y a des poèmes, beaucoup de poèmes dont on prend connaissance après sa mort. Vous avez choisi un poème en particulier, il s'appelle La musique.
Ouais. Je vous
le
lis.
Bah oui. Sauf si vous voulez le présenter avant.
Non, je pense qu'il se présente tout seul.
Ok, alors allez-y.
Il y a en elle un miracle qui brûle. Sous nos yeux, elle forme un cristal. C'est elle-même qui me parle quand les autres ont peur de s'approcher. Quand le dernier ami a détourné les yeux, elle est restée avec moi dans ma tombe. Elle a chanté comme un premier orage ou comme si les fleurs se mettaient toutes à parler.
J'ai presque envie de l'entendre une deuxième fois, mais bon, peut-être pas.
Bah non, mais si, avec plaisir.
Allez, une deuxième fois alors.
Donc, la musique. Il y a en elle un miracle qui brûle. Sous nos yeux, elle forme un cristal. C'est elle-même qui me parle, quand les autres ont peur de s'approcher. Quand le dernier ami a détourné les yeux, elle est restée avec moi, dans ma tombe. Elle a chanté comme un premier orage, ou comme si les fleurs se mettaient toutes à parler.
Souvent, vous parlez de la musique comme Akhmatova, avec un « elle » qui, sans la personnifier, en tout cas ferait quelque chose de l'ordre d'une entité à laquelle on peut se rapporter, Clara Isée.
Ouais, parce que pour moi, c'est le plus beau texte que j'ai lu sur la musique. Enfin, ce poème, quand elle dit « il y a en elle un miracle qui brûle », mais je suis en fait... Ça m'émeut à chaque fois que je le lis, j'ai envie de pleurer parce que je pense qu'en effet, dans mon rapport à la musique, j'ai un rapport qui est presque mystique à la musique, dans le sens où j'ai un sentiment de reconnaissance pour la musique qui est infini.
Mais toujours depuis l'enfance.
Toujours depuis l'enfance. Après, ça s'est aggravé avec le temps, mais dans le sens où je pense que c'est s'il y a une chose, si je devais choisir une chose dans ma vie qui m'a sauvé la vie, qui a toujours été là, qui m'a rattrapée dans tous les moments, qui m'a aussi accompagnée dans les plus beaux moments de ma vie, ça a été la musique. Et je pense que c'est peut-être l'arme la plus puissante pour moi face au désespoir. Et voilà, je pense qu'elle nous aide à mille endroits. D'abord, c'est un langage d'amour, et en fait, c'est peut-être en ça que c'est un peu mystique, mais je pense qu'il y a, c'est un langage qui aujourd'hui pour moi est intimement politique, parce que c'est un langage qui propose, en tout cas dans les concerts et dans la façon dont la musique se propage, se diffuse, se partage, c'est un espace où on peut faire une expérience collective d'amour. Et d'amour quelque part malgré tout ce qui pourrait nous séparer. Et je trouve qu'on est, enfin voilà, c'est pas une nouveauté. On est dans une société qui est extrêmement violente, dans lequel je pense qu'il y a une division. Enfin, je suis pas la première à le dire, mais une division de plus en plus grande entre les êtres et une difficulté de plus en plus grande aussi à se retrouver dans un espace qui soit pas un espace ou un terrain miné. Et la musique offre ça. C'est que pour moi, c'est peut-être un des derniers grands espaces d'hospitalité. Mmh. C'est et d'amour, quoi. Et je pense que c'est un langage qui sauve, dans le sens où c'est un langage où quelque part il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour ce qui nous divise, en fait. Donc c'est un espace qui, je pense aujourd'hui, est extrêmement précieux et qu'il faut protéger, défendre, aimer.
C'est aussi le langage de l'amour qui, on va dire, gonfle le poème suivant. C'est un poème de René Char. Il s'appelle Marthe.
Ouais.
C'est un poème, vous allez le lire, peut-être vous voulez nous dire pourquoi vous l'avez choisi. On peut le trouver dans Führer et Mystère, qui est publié en 1948, qui rassemble des poèmes écrits entre 1938 et 1947. Je trouve que c'est un poème d'amour qui veut que tout reste libre.
Ouais, pour moi c'est le plus beau poème d'amour qui a jamais été écrit,
ni moi.
Enfin, de ceux que j'ai lus. Mais non, je trouve qu'il y a... Parce que je pense que c'est un poème, en tout cas pour moi, qui donne un horizon. Dans le sens où je trouve que c'est... J'aimerais tellement, tellement aimer comme ça. Et être aimé comme ça. Que voilà, c'est un poème qui m'accompagne. Et je trouve que ouais, c'est un poème horizon.
Waouh. Allez, Marthe.
Marthe que ces vieux murs ne peuvent pas s'approprier. Fontaine où se mire ma monarchie solitaire. Comment pourrais-je jamais vous oublier puisque je n'ai pas à me souvenir de vous? Vous êtes le présent qui s'accumule. Nous nous unirons sans avoir à nous aborder, à nous prévoir comme deux pavots font en amour une anémone géante. Je n'entrerai pas dans votre cœur pour limiter sa mémoire. Je ne retiendrai pas votre bouche pour l'empêcher de s'ouvrir sur le bleu de l'air et la soif de partir. Je veux être pour vous la liberté et le vent de la vie qui passe le seuil de toujours avant que la nuit ne devienne introuvable.
Puisque vous nous parlez d'un poème au horizon, qu'est-ce qui vous intéresse en quoi ça vous permet de regarder au loin concernant l'amour, ce poème de René Char?
D'abord je pense que ce poème il a à la fois il y a plein de choses qu'on comprend et en même temps il y a une opacité que je trouve magnifique et qui pour moi est liée à l'opacité de l'amour et qui je pense ne peut
et
pas
du poème,
et
souvent,
du poème complètement
souvent, ça va de pair d'ailleurs
totalement
ouais.
Complètement mais une opacité qui est pas une fausse opacité qui est une opacité qui nous relie à justement ce qui ne peut pas être transmis par les mots et qui est peut-être transmis par la poésie. Par ce pari fou de réussir quand même à transmettre l'énigme à travers les mots.
Mais il dit quand même des choses.
Mais voilà, il dit quand même des choses et je trouve que voilà, il y a un rapport à la liberté que je trouve magnifique dans le sens où c'est un poème qui je pense d'une certaine manière parle d'aimer l'autre dans sa joie, d'aimer l'autre dans son bonheur, d'aimer l'autre dans sa liberté, dans le bleu de l'air, dans la soif de partir, et je pense que
c'est dur.
Que ouais, je pense que c'est pas facile, mais que d'aimer quelqu'un comme ça, c'est peut-être la plus belle et puissante forme d'amour qui puisse exister.
En tout début d'entretien, je vous demandais ce que vous cherchez dans les textes. Est-ce que c'est quelque chose qui, alors sans le chercher, mais est-ce qu'on peut y trouver justement? Est-ce qu'on peut apprendre à vivre dans les textes? Est-ce qu'on peut apprendre à aimer? Est-ce que ça peut nous donner des indices? On disait aussi les choses qui nous bougent, Clara Isée.
Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on vient chercher on vient chercher des amis quand on lit. On vient chercher des alliés aussi. Moi, je pense que dans ce texte aussi, ce que j'ai trouvé, c'est une manière de se rapporter à l'amour qui est extrêmement exigeante et qui n'est pas du côté de la tragédie et de la destruction. Et que je trouve qu'il y a une érotisation, en tout cas, de la destruction dans l'amour qui est... Et pourquoi pas, quelque part, parce que ça donne des textes qui sont sublimes aussi. Mais ce texte-là de René Char, pour moi, il me connecte à cet endroit où, finalement, en le lisant, je sais pas moi, j'ai la sensation d'un coup de... C'est en ça que je parle d'horizon, c'est que j'ai l'impression que d'un coup, ça déforce le rapport à la destruction.
Oui, puis ça rend très érotique l'idée d'être libre et d'aimer que l'autre le soit.
Déjà, complètement. Et puis surtout, ça donne un horizon dans le sens où l'intensité de la construction et l'intensité de la joie et l'intensité d'aimer l'autre dans sa plénitude à lui ou à elle devient une intensité qui est plus forte que celle de qui est finalement beaucoup plus facile du drame.
Oui, en tout cas, elle n'est pas moins forte.
Elle n'est pas moins forte.
Souvent, ce qu'on véhicule. Ouais. On va terminer avec une archive d'Ingeborg Bachmann elle-même. C'est la dernière autrice que vous souhaitiez évoquer. C'est une archive qui est sans date, mais qu'on trouve dans un documentaire Une vie, une œuvre que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr.
Man hat mich schon manchmal gefragt, warum ich einen Gedanken habe.
On m'a déjà demandé pourquoi je m'imagine
von einem utopischen Land,
un pays utopique,
eine utopische Welt,
un monde utopique,
in der alles gut sein wird, und in der wir alle gut sein werden,
dans lequel tout serait bien,
darauf
où nous serions tous bons,
wenn man dauernd konfrontiert wird mit der Abscheulichkeit.
Répondre peut paraître paradoxal quand on est sans cesse confronté à l'horreur de cette vie quotidienne.
Reich ist man, wenn man etwas hat, das mehr ist.
Être riche, c'est posséder quelque chose en plus des choses matérielles. Je ne crois pas à ce matérialisme, à cette société de consommation, à ce capitalisme, à cette monstruosité, à cet enrichissement de gens qui n'ont pas le droit de s'enrichir. Je crois vraiment qu'un jour viendra et qu'un jour ça arrivera. Mais ça n'arrivera sans doute pas. On nous l'a toujours détruit. Et pourtant j'y crois. Si je ne pouvais pas y croire, je ne pourrais pas non plus écrire.
Désolée, mais c'est Yom. C'est avec la voix de cette grande poétesse et romancière aussi, Ingeborg Bachmann. C'est notre dernière guide dans votre bibliothèque, Clara Isé, qu'on se quitte. On l'entendait ici dans cette archive. On l'entend aussi parler d'un rapport très exigeant à l'existence. On parlait du tragique, malheureusement, son existence à elle l'est beaucoup, à plein d'égards. Elle meurt en 1973, brûlée dans sa chambre à Rome. Mais il y a quelque chose de sa poésie qui, comme tout ce que vous avez choisi, ne quitte pas la vie. Enfin, vraiment, qui est très pleine de vitalité. Alors, ça va bien avec la fin de l'émission. Le poème s'appelle « Le jeu est fini » et il est extrait du recueil « Toute personne qui tombe a des ailes ». Est-ce que vous voulez nous le présenter avant de le lire ?
Oh, je préfère vous le lire.
Allez.
Je pense que c'est plus fort. « Le jeu est fini. Mon cher frère, quand nous construirons, nous, un radeau et ferons la descente des cieux ? Mon cher frère, la cargaison sera trop pesante bientôt et nous sombrerons tous deux. Mon cher frère, nous dessinons sur le papier tant de pays et de voies ferrées. Prends garde, ici, devant les noires lignes, tu vas sauter sur les mines. Mon cher frère, ensuite au poteau, je voudrais être lié et crié, mais toi, déjà, sur ton cheval, tu quittes la vallée des morts et nous fuyons tous deux. Éveillés au camp des Tziganes et éveillés sous la tente au désert, le sable nous coule des cheveux, ni ton âge, ni le mien, ni l'âge du monde ne peuvent se mesurer aux années. Par les corbeaux rusés, par la patte d'aragne et par la plume dans le buisson, ne te laisse pas duper. Ne mange ni ne bois au pays de Cocagne, c'est le simulacre qui mousse dans les poêles et les pichets. Seul qui, au pont d'or, pour escarboucle la fée, se souvient encore du mot à gagner. Je dois te dire, avec la dernière neige au jardin, le mot a fondu. Par tant et tant de pierres, nos pieds sont si blessés. L'un guérit, avec lui nous voulons sauter, jusqu'à ce que le roi des enfants, dans la bouche la clé de son royaume, nous emmène et nous allons chanter qu'il est beau le temps où germe de la date le noyau. Toute personne qui tombe a des ailes. C'est un dé rouge qui ourle le linceul des pauvres et ta feuille de cœur sombre sur mon seau. Nous devons aller nous coucher, très cher, le jeu est fini, sur la pointe des pieds. Les chemises blanches bouffent. Père et mère disent que la maison est hantée quand nous échangeons notre souffle.
C'est un drôle de mot de la fin, Clara Isée. C'est trop beau, le jeu est fini.
Ah ouais, bah, typiquement, je pense que c'est un texte, je sais pas si je pourrais dire quoi que ce soit d'intelligent.
On peut se quitter là-dessus. Hein.
Ouais, je crois.
Ouais, aucun problème. On peut même sortir de votre chambre, aller lire des livres de poésie, oui. Traverser le couloir avec les romans, faire un petit clin d'œil au texte philosophique dans le salon.
Oui.
Et vous adresser un très grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous.
Merci à vous.
On se quitte avec une de vos chansons, un extrait de votre disque, Océanonox.
À l'entrée de la maison, je suis aux abois. Je vois tous les oliviers, il ne manque que toi. Voilà que je vais quitter l'endroit que j'ai aimé, que durant des années tu as foulé des pieds. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. J'ai gardé de la maison quelques photographies, quelques objets volés et les draps de ton lit. Puis j'ai avalé la clé et couru dans la nuit. Si vous me cherchez ici, sachez que j'ai fui. Comment garder la joie de vivre? J'ai oublié, rappelle-moi. J'ai quitté la maison ivre de souvenirs avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi.
Vous retrouverez toutes les références littéraires de la bibliothèque de Clara Isée ainsi que les traductions que nous avons entendues sur le site franceculture.fr où vous pouvez réécouter l'ensemble des portraits de bibliothèque du Book Club. Aujourd'hui au son, c'était Jérémy Kaufmann, à la réalisation Lise Scom. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Alexandra Laibegovic, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Didier Pinault, Léa Weiss-Grus et Mathilde Wagman.
Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi. J'ai perdu la joie de vivre. J'ai oublié entre tes bras. Je ne quitterai pas l'île. Souvenir avec toi. Je ne réponds plus de moi. Je ne réponds plus de moi.